Notre Dieu, nous te prions, nous nous plaçons devant toi ce soir. Père céleste, je sais que par moi-même je ne peux pas grand-chose, mais je te prie de révéler ton amour. Révèle que tu es un Dieu vivant, que tu es vraiment vivant, tout-puissant. Que cette révélation, le fait de prendre conscience que tu es Dieu, tout simplement que tu es Dieu, et que tu nous aimes, que ça puisse faire fondre toute chose en nous, et qu'on puisse tout lâcher intérieurement, qu'on puisse pardonner quiconque, n'importe qu'on puisse pardonner, te demander pardon, tout lâcher, et nous laisser remplir de Jésus. Père de gloire, viens bénir ses enfants. Je te prie de ne pas permettre qu'aucun d'eux se perde. Que tous nous puissions être sauvés et demeurer sauvés jusqu'à ce que tu viennes. Que ta vie prenne le pas sur notre vie. Que ton amour prenne le pas sur notre amour. On veut lâcher prise, Seigneur, encore ce soir. On veut tout lâcher. Viens nous montrer par ton esprit au fond de nos cœurs ce que nous pouvons encore lâcher. Qu'aucun de nous puisse jouer aux chrétiens. Qu'on puisse se laisser saisir par ton amour. Qu'on puisse se laisser saisir par toi, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus, fais ces choses dans nos cœurs. Amen. Vous savez, il y a ce verset du livre de Job qui me vient à l'esprit. Ce soir, je vais prendre certaines paroles, vous êtes prié de ne pas regarder dans vos Bibles, comme ça on aura plus de temps, d'accord? Et puis, par contre, de recevoir toutes ces paroles dans vos cœurs. Vous savez ce qu'il a dit Job, tout à la fin du livre de Job, vous lisez au chapitre 42, verset 5, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est ce que j'aimerais que le Seigneur fasse dans nos vies. Peut-être qu'on avait entendu parler du Seigneur. On entend parler du Seigneur, mais que notre œil puisse voir quelque chose de Dieu. Il puisse se passer quelque chose qui fait que Dieu se révèle à nous comme Dieu. Dieu est vivant et on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Il est la source de toute vie. Il est la source de toute chose. Alors on peut entendre parler de lui. Mais qu'entre toi et le Seigneur, eh bien, il puisse se passer quelque chose pour que, comme Job, tu puisses dire « Mais maintenant, mon œil l'a vu. » Et je peux vous dire que quelqu'un qui a connu et qui a vu le Seigneur avec son cœur en esprit et en vérité, il ne peut pas le lâcher. Il sait que c'est sa vie et rien d'autre et qu'il n'y a alors rien dans ce monde qui va pouvoir lui voler cette perle précieuse qu'il a choisi d'acheter. Il a tout quitté, il a tout vendu pour cette perle précieuse. Et il n'y a rien ni personne qui pourra le séparer de cette perle, de cette vie, de Dieu le Père, de son amour. Qu'encore ce soir, on puisse ouvrir nos cœurs, on puisse se laisser toucher par l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu vous aime. Laissez vos cœurs fondre devant son amour. Laissez vos cœurs fondre. C'est tout ce que vous attendez sans le savoir. De laisser vos cœurs, qui pourraient être encore de pierre, fondre devant l'amour de Dieu. Et celui qui pourra dire maintenant « Mon œil t'a vu », il pourra dire avec l'apôtre Paul, Romains 8, verset 38, car j'ai l'assurance, il est assuré. J'ai l'assurance parce que j'ai vu, parce que j'ai tout lâché, parce que j'ai capitulé devant Dieu. Vous savez ce qu'il disait Job ? Après avoir dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu », il a dit « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre ». Ça veut dire qu'il a dit maintenant « J'arrête de vouloir faire par moi-même, j'arrête de vouloir être ceci ou cela par moi-même, je me condamne, je me laisse condamner avec Jésus à la croix et je me repens ». Ça veut dire « Je reviens à Dieu ». Ça veut dire « Je laisse tout tomber maintenant que j'ai vu Dieu. Il est ma vie. » Ainsi, s'il est notre vie, on va pouvoir dire avec Paul, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous dans le Christ Jésus. » Vous savez, Dieu me pousse à vous crier ce soir. On ne peut pas prendre la grâce de Dieu en vain. On méritait la mort, on était séparés de Dieu. Réfléchissez. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vivre éternellement ? Rien. Rien. S'il ne se passe pas quelque chose dans nos vies, quoi qu'il arrive, on mourra un jour. Et la mort, elle a pouvoir sur nous. Et on ira à la tombe. On peut, vous savez, se poser des questions sur Dieu. Mais il y a un moment, vous voyez, où l'Esprit de Dieu vient nous parler. Et vient nous dire, on peut réfléchir à des choses. On peut penser à des choses. Mais l'amour de Dieu a été manifesté pour toi. Et comment tu le reçois ? Par la prédication de l'Évangile. Et en deux mots, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour tes péchés, pour te délivrer. Il est mort à la croix pour toi. Il est ressuscité d'entre les morts. Et qu'est-ce que tu fais devant cette croix ? Qu'est-ce que tu fais devant cette vie ? Qu'est-ce que tu fais devant l'amour ? Qu'est-ce que tu fais devant la grâce de Dieu ? Il y a des fois, vous savez, on peut raisonner, on peut se dire des choses, mais il y a besoin que quelqu'un vienne par l'Esprit et te dise, « Mais remis-toi ! Dieu a donné son Fils, et qu'est-ce que tu vas faire de cette grâce ? Qu'est-ce que tu vas faire de cet amour ? Comment tu prends la grâce de Dieu ? Est-ce que tu te dis, « Oui, on va voir, je ne sais pas ce que la Bible dit, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas ?» Moi, je te dis ce soir, Dieu est vivant et il a donné Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour toi et sans raisonner, reçois-le ce soir dans ton cœur. L'amour de Dieu a été manifesté pour toi en ce que Dieu a donné Jésus-Christ. Et laisse Jésus rentrer dans ta vie. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit l'Évangile, pas de quiconque raisonne. Par ton esprit, tu peux connaître les choses des hommes, tu peux avoir plein de connaissances, tu peux beaucoup réfléchir. Mais on a besoin que l'Esprit de Dieu vienne comme nous clouer le bec, nous ouvrir le cœur, et qu'il manifeste l'amour de son Fils. Et ça, ça ne se raisonne pas, ça se reçoit. C'est même de l'obéissance à Dieu. Paul y disait qu'il avait reçu la grâce et l'apostolat d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Si Dieu a donné son Fils, arrêtons parfois de raisonner, mais courbons-nous devant lui et disons-lui, révèle-moi maintenant ces choses, parce que je ne veux pas être assez fou, alors que tu as tout donné pour moi, de vivre en n'en ayant rien à faire, ou en ayant un peu à faire, en raisonnant sur ces choses. Ô homme, qui es-tu pour discuter avec Dieu ? Recevons ce soir encore une fraîche révélation de son amour. Alors, bien-aimé, ce soir, j'avais ces versets à cœur. Matthieu 10, verset 16, qui dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Ce camp, il arrive à sa fin. On a vécu des choses fortes dans nos cœurs. Eh bien, on va rentrer chez nous. Et c'est la vérité que le Seigneur nous envoie dès ce soir, comme des brebis au milieu des loups. On est comme des brebis au milieu des loups. Et les loups, ils veulent venir nous dévorer. Et ils vont venir pour nous dévorer. Alors, le Seigneur dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alors, avant de parler de choses profondes que Dieu a mis sur mon cœur, j'aimerais vous donner deux conseils qui me paraissent très importants. Le premier, c'est d'être prudent comme les serpents. Vous savez, le serpent, la Bible nous dit que c'était le plus rusé de tous les animaux. Eh bien, on a besoin aussi d'être rusé. On a besoin d'être intelligent. On a besoin, quand on rentre dans le monde, comme vous allez rentrer, de ne pas se laisser bêtement avoir, mais d'avoir vraiment des yeux grands ouverts, d'avoir de l'intelligence, d'être prudent et rusé comme les serpents. La puissance de ce monde, elle est grande. Et on a besoin d'être sage. J'aimerais vous donner un petit conseil. Retenez ce mot « prévenir ». Prévenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme on dit ce dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Ça veut dire que, parfois, on va tomber dans le péché parce qu'on n'a pas assez réfléchi avant. Et j'aimerais que Dieu vous parle ce soir pour vous montrer qu'il vous faut avoir de l'intelligence. C'est sûr que si vous allez vous mettre dans des situations, dans certaines situations, par exemple un garçon qui va aller avec une fille, ou si on va aller dans des soirées, ou si on va aller avec des copains qui vont nous influencer en mal, qui vont faire le mal, ne nous étonnons pas après qu'on va finir dans le péché séparé de Dieu. Apprenons dès ce soir à ouvrir nos yeux et à prévenir, à dire maintenant, je vais rentrer au milieu des loups, mais moi je ne suis pas un loup, je suis une brebis. Alors il vaut mieux que je reste avec le berger, il vaut mieux que je reste avec des brebis, quitte à être seul. Mais il vaut mieux être une brebis seule qu'une brebis au milieu des loups, parce que les loups, ils vont vous manger. Mais le bon berger, même si vous êtes seul, il prendra soin de vous. Et si vous souffrez sur la terre, vous aurez la joie et la gloire éternelle pour toute la vie et la vie éternelle. Il y a, dans le psaume 73, vous pourrez le lire, cet homme de Dieu qui disait « Je voyais tous les méchants réussir. » Ils frimaient, je paraphrase, ils étaient adulés. On disait, waouh, lui, il est bien. Oh, lui, il a ce téléphone, il a cette console. Moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela. Et ils réussissent. Et ils pourraient nous faire envie. Et ils disaient, mais la difficulté, elle fut grande à mes yeux. Elle fut grande à mes yeux. Et j'allais glisser. J'allais glisser avec eux. J'allais laisser mon cœur me laisser aller avec ce monde. Et il a dit, mais tout à coup, mes yeux se sont fixés sur le sanctuaire. Et sur le sort final des méchants. Mes yeux se sont fixés sur la fin du monde, sur ce qui va arriver tout à la fin. Et alors là, vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il raisonnait comme un animal. Il raisonnait comme une bête. Il ne se rendait pas compte que sa vie, c'est une chose capitale que je veux vous dire ce soir. Votre vie, elle n'est pas faite pour ce monde présent. Elle est faite pour la vie du monde à venir. Et ça, gardez-le toujours dans votre cœur. Vous allez repartir. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez vous laisser manger par les loups. Peut-être d'un coup comme ça, mais peut-être petit à petit, subtilement. Et ce feu qui brûlait en vous, eh bien, le monde va l'étouffer. Alors, sois pas bête. Sois pas stupide. Et je le répète, c'est pas pour être méchant. Ne soyez pas bête. Ne soyez pas stupide. Ne soyez pas inintelligent, mais ouvrez les yeux sur le péché de ce monde. Et ne faites pas bêtement comme les autres. Ne prenez pas ce chemin large et spacieux, comme on va le lire, avec tout le monde, à vous laisser entraîner par le courant, à vous laisser manger par les loups. Mais soyez prudent. Soyez prudent pour ne pas vous laisser avoir. Et des fois, si vous êtes prudent, eh bien, vous n'allez pas vous retrouver dans des situations pour pécher. D'accord ? Le péché, il commence dans tes pensées, il commence dans ton imagination. Eh bien, apprends à le couper tout de suite. Apprends à pas aller où tu dois pas aller. Apprends à pas avoir des... Voyez, des fois, on commence à s'imaginer des trucs, on pense à des choses, puis ça produit des choses en nous. Ça fait qu'il y a des choses qui se passent en nous. Et alors après, il y a la convoitise qui vient, et la convoitise, elle enfante le péché. Et alors on pêche, et on est dans la mort. Et alors quand on est dans la mort, on va encore mentir, et on va passer dans un cycle de mort. Voyez, on va passer dans un cycle de mort. Alors soyez prudents pour rester dans ce cycle de vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, qui d'entre nous peut se sauver par lui-même ? On a absolument besoin de Dieu. Sans lui, on est absolument fichu. Si on n'a pas sa vie, on devrait avoir peur. Mais la vie de Dieu, elle a été manifestée dans nos cœurs ce matin. Si quelqu'un n'a pas encore reçu la vie de Dieu, il pourra s'avancer et me le dire à l'oreille. Je veux la vie de Dieu. Alors déposez toute chose et recevez la vie de Dieu. Et parfois on peut avoir reçu la vie de Dieu, mais la mépriser. Ne pas se rendre compte de la chance qu'on a, que Dieu vient dans nos cœurs, Dieu vient mettre sa vie, Dieu vient mettre son amour. Alors ne faisons pas n'importe quoi de nos vies. Soyons prudents, soyons rusés comme le serpent. Deuxièmement, soyons simples comme les colombes. J'aimerais vous rappeler, et que vous puissiez toujours vous rappeler, que l'Évangile, c'est simple. L'Évangile, c'est simple. Autant le diable, il va venir pour vous prendre subtilement, autant, dans quelque situation que vous pourrez vous trouver, rappelez-vous que l'Évangile, c'est simple. C'est de vous mettre à genoux. Jésus, il est mort, il est ressuscité pour toi. Et où que tu en sois, demande-lui pardon et invoque sa puissance. Invoque sa vie. Prie, lis la parole de Dieu et tu seras sauvé. L'Évangile, il est simple. C'est pourquoi Paul disait aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. » Vous voyez, nous, on n'est pas rusés, mais le diable, il est rusé. Alors apprenons à être plus malin que le malin, vous comprenez ? Plus malin que le malin. Mais Paul dit, « Je crains que le malin, il vienne vous détourner. » Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Parfois, vous voyez, on complique la vie avec Dieu. On la complique alors qu'elle est toute simple. Et la puissance de Dieu, elle se trouve dans la simplicité. Et parfois, on raisonne, on se dit, oui, mais ceci, oui, mais tu vois cela. Non, 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 ne vous laissez pas séduire par ces raisonnements. L'Évangile, il est simple. C'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est vous déposez votre vie à la croix et vous recevez la puissance de la résurrection. Et ça, à chaque instant, chaque matin, à tout moment, vous pouvez le vivre. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur, vous n'avez même pas besoin de vos parents, même si les pasteurs sont là pour vous instruire. Vos parents sont très précieux pour vous instruire, s'ils sont bien sûr chrétiens. Mais tout ce que vous avez besoin, c'est de cette simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Alors, un dernier conseil. Le cœur pour votre marche. Si vous vivez cette simplicité à l'égard de Christ, eh bien votre marche, c'est d'apprendre à discerner la volonté de Dieu. Gardez ça comme un fondement. Apprenez à discerner en toute chose dans vos vies quelle est la volonté de Dieu. Ne marchez pas à l'aveuglette quand vous allez rentrer chez vous. Sinon, c'est comme un agneau qui part, et puis il ne s'en rend même pas compte, il passe sous la barrière. Le berger ne sait plus où il est, et il va se faire manger par les loups. Ne marchez pas dans le hasard. Apprenez chaque matin à discerner quelle est la volonté de Dieu. Chaque soir, à vous interroger, est-ce que j'ai marché selon Dieu ou pas ? Que le vieil homme et l'homme nouveau, ça devienne des choses claires dans vos vies. Priez le Seigneur pour qu'il vous montre qu'est-ce que c'est votre vieil homme, qu'est-ce que c'est votre homme nouveau. Ne marchez pas comme ça, sinon le levain va venir et subtilement il va faire monter la pâte du péché dans vos vies. Mais si vous êtes clair, notamment à travers la parole de Dieu qui tranche et qui sépare, vous voyez, ce qui est du vieil homme et ce qui est de l'homme nouveau, vous allez apprendre à marcher selon la volonté de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Pour ça, vous avez besoin de la prière et vous avez besoin de la parole de Dieu. Pas forcément des grandes prières, des longues prières, mais des prières constantes. Tous les matins, Prenez au moins un petit temps pour vous placer devant Dieu. Allumez, procurez-vous tous une bougie. Mettez-la à côté de votre lit. Et tous les matins, allumez cette bougie. Et laissez Dieu scruter vos cœurs. Donnez-lui votre vie. Recevez son esprit. Et voyez la journée qui est devant vous. Et demandez-lui de discerner ce qui est de votre vieil homme et de votre homme nouveau. Qu'est-ce qui est de votre cœur dur ou de votre cœur d'amour en qui Jésus a fait son œuvre. De celui qui juge ou celui qui bénit. De celui qui est tenté par le mal, par l'impureté, par ce qui est mauvais, ou celui qui recherche ce qui est honorable, ce qui est pur, celui qui a le royaume des cieux dans son cœur, ou celui qui a le royaume du malin dans son cœur. Celui qui est un enfant de Dieu, ou qui est un enfant du diable. Et tous les soirs, réallumez cette bougie, et faites un instant, devant Dieu, cette prière, Père, montre-moi la journée. Est-ce que je t'ai oublié en ce jour? Comment j'ai été? Et alors, petit à petit, vous allez voir votre vie être transformée. Je ne sais pas s'ils l'ont continué, les enfants, mais je leur avais dit un jour de prendre un cahier. Et chaque jour, le soir, vous pouvez mettre votre journée devant Dieu. Vous faites un trait au milieu de la page et vous notez à gauche tout ce qui a été Jésus dans votre vie, les œuvres de Jésus, l'amour de Jésus, la vie de Jésus, du Saint-Esprit, et de l'autre côté, tout ce qui a été la chair, le monde et le diable. Et alors, si vous faites ça chaque jour, vous allez voir vos mauvaises tendances, les péchés qui reviennent dans votre vie, et vous allez les remettre à Dieu. Et de manière toute simple, vous allez invoquer sa puissance pour vous donner de vivre une vie pure. Et c'est possible de vivre cette vie pure. C'est possible de vivre cette vie pure. Alors apprenez à voir clairement la différence et à ne pas marcher dans la confusion. Il y a un prophète qui dit « Le jour de l'Éternel, le jour de ton châtiment approche, mais le peuple est dans la confusion. » Le jour de Dieu vient. Le Seigneur revient bientôt dans sa gloire. Eh bien, ne soyons pas dans la confusion, mais apprenons à être clairs pour ne pas marcher n'importe comment, mais pour marcher selon Dieu et pour garder cette vie qu'il nous a donnée. Et retenez une chose très importante, c'est des petites choses que je vous donne là, mais qui sont comme des fondements pour votre vie. Plus vous allez obéir, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, nous dit la Bible. Plus vous allez obéir à la voix de Dieu, quand vous allez être dans des situations, vous allez, parce que vous avez reçu cette vie de l'Esprit, vous allez sentir... Vous allez comme entendre un murmure, pas le Seigneur qui vous dit « Nathanaël, il faut que tu ailles sur la droite et non pas sur la gauche. » Mais vous allez sentir dans votre cœur qu'il faut que vous alliez à droite. Vous allez sentir dans votre cœur que ce que vous faites, c'est pas bien. Et qu'il faut avoir justement la prévenance, prévenir, arrêter de marcher. Parce que si tu continues de marcher, tu vas tomber. Et souvent avant qu'on pêche, le Seigneur il nous parle. Est-ce que tu l'écoutes? Et je veux te dire aujourd'hui que si tu apprends à écouter cette voix, à écouter ce ressenti et à lui obéir, tu vas devenir de plus en plus fort. Plus tu obéis à cette voix, plus tu apprends à dire non au diable et oui à Dieu, plus tu vas devenir fort. Et ça, c'est le chemin obligé pour tout le monde. Si on veut que Jésus grandisse en nous, eh bien on doit marcher comme lui-même a marché, et pour ça on doit apprendre à obéir. Mais c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de puissant. Plus tu obéis à Dieu, parce que tu commences à entendre sa voix, tu sens... Des fois, vous avez de la peine à discerner, n'est-ce pas? Vous ne savez pas trop. Mais apprenez à obéir. Si vous ne savez pas, faites ce qui vous paraît le plus juste. Et vous allez de plus en plus entendre la voix de Dieu. Vous allez de plus en plus sentir. Et plus vous allez obéir, plus ça va devenir clair. Et ça, c'est un secret que Dieu vous donne ce soir. Quand vous sentez que vous êtes porté vers le mal, apprenez à dire stop et à obéir, même si des fois c'est très dur. Pour ça, c'est obligé, on doit apprendre à se renier. Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il faut apprendre à dire oui et il faut apprendre à dire non. Alors regardez-moi bien, que ce soir vous puissiez tous prendre une décision devant Dieu, un Dieu qui nous regarde. Ce soir, il est là, il nous regarde. Est-ce qu'on va sortir et continuer notre vie? Bon, ben, je vais voir. Ou est-ce qu'on va avoir cette sainte crainte de Dieu?
Et la crainte de Dieu, c'est pas de la peur. La crainte de Dieu, c'est une grâce. C'est quelque chose qui nous donne la grâce de revenir à Dieu, de monter vers Lui. Alors ce soir, prenez une décision. Je veux partir d'ici, mais pas comme un insensé. Je suis pas en train de crier en ce moment, mais je suis en train de vous dire des choses capitales qui peuvent complètement changer votre vie. Et que si vous les entendez pas, vous allez marcher dans la choucroute, dans la mélasse. Vous allez tituber. Écoutez bien. Vous devez être vrai avec Dieu. Être clair avec vous-même, même. Avec vous-même. Ne vous laissez pas tromper par vous-même, par des raisonnements. Soyez clair. Comme le disait le prophète Élie, comme je vous l'ai dit, arrêtez de clocher des deux pieds. Soit vous voulez servir Dieu, soit vous voulez servir le diable. Mais décidez-vous. Parce que si vous êtes entre deux, c'est ce que dit Jésus. Soit tu es bouillant, soit tu es froid, mais si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. C'est des paroles terribles. Mais vous savez, un jour, c'est une interprétation personnelle que j'ai reçue. Vous savez comme ça fait quand on a vomi. Vous avez déjà tous vomi. Vous voyez comme on n'est pas bien, quoi. Comme on a ce sale sentiment. Pour moi, c'est notamment ça qu'il veut dire Jésus. Il vaut mieux être froid et dire, voilà, moi Dieu, j'en veux pas, je vais dans le péché. Ou il faut être bouillant, alors on marche avec Dieu, que tiède. Parce que si vous êtes tiède, vous êtes entre deux chaises et vous allez souffrir. Vous allez être dans ce sentiment comme si vous avez vomi. Parce qu'un temps, vous allez vous laisser tomber avec les autres dans le péché, puis un autre moment, vous allez vous en vouloir parce que vous avez péché et vous allez être pas bien. Alors ce soir, mon cœur, c'est que vous puissiez vous avancer ici et prendre une décision. Seigneur, je ne veux pas marcher dans la confusion, mais je veux me décider à marcher avec toi. Je veux me décider à obéir à cette voix. D'accord ? Je veux me décider à obéir. Retenez cela comme un fondement. Plus tu vas obéir à Dieu, plus tu vas entendre cette voix, plus Jésus il va grandir en toi, plus il va être fort. Et tu es fait pour cette plénitude de vie et pour rien d'autre que cette plénitude de vie. Alors que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et prends ce soir une décision pour le Seigneur. Comme je vous l'ai dit, est-ce qu'on va se laisser entraîner dans le courant avec les autres ou est-ce qu'on va s'accrocher au rocher ? Ce soir, décide-le. Parce que si ce n'est pas clair en toi, si ce n'est pas clair en toi, quand tu vas aller dans le monde, toi qui es un agneau parmi les loups, tu vas te faire manger. Par contre, si c'est clair en toi, que tu vas tenir la main du berger, et quand il va te dire tu viens, même si tu n'as pas envie, tu sais qu'il faut y aller. Parce que si tu n'y vas pas, tu vas te faire manger. Alors ce soir, plaçons-nous devant le Seigneur et prenons une décision. Soyons prêts, comme on l'a vu, à sauter dans le vide, même si on ne sait pas ce qu'il y a. Vous voyez comme des fois, on se dit, voilà, je vais me laisser aller, je vais aller avec Dieu. Puis en même temps, je me dis, bon, mais je ne sais pas par rapport à des gens, par rapport à ceci. Alors tu veux garder ta vie. Et on va lire ces versets. Si tu veux garder ta vie, tu vas la perdre. Et le Seigneur, il peut venir comme un voleur, en un instant. Et tu auras fait la folie d'avoir l'amour d'un père qui voulait te sauver, qui t'avait parlé de son fils, et tu n'auras pas pris ces choses au sérieux. Tu auras voulu garder ta vie, et ta vie, si tu la gardes, tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Alors lâche-la. Lâche ta vie. Ouvre ton cœur. Et sois pas fou avec les fous. La Bible dit que du haut des cieux, Dieu sonde les fils de l'homme, et il regarde s'il y en a un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Alors il dit, tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Est-ce que tu veux être de tous ceux-là qui ne réfléchissent pas, qui continuent à vivre comme ça? Ou est-ce que tu veux ce soir te placer devant Dieu et dire, je ne peux pas faire comme si Dieu n'existait pas. Il est ce Dieu vivant qui a agi dans l'histoire de son peuple, qui a agi dans l'histoire de l'Église. Et il m'appelle à lui pour me sauver. Et si tu es sauvé, il t'appelle alors à marcher avec lui. On ne peut pas dire je suis sauvé et je continue dans le monde, sinon on est sauvé de quoi ? Dieu veut nous sauver de cette nature qui nous amène au péché. Alors voyez clair cette nature et voyez clair la vie de Jésus. Obéissez à cette nature. Mettez cette parole de Dieu en pratique et vous aurez la vie. Alors rien ni personne, vous en aurez l'assurance, ne pourra vous séparer de cet amour de Dieu manifesté pour vous dans le Christ Jésus. Alors si vous avez une Bible maintenant, vous pouvez prendre avec moi. On va lire quelques versets ensemble. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 et on lit le verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Que le Père grave ces versets dans nos cœurs. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je répète, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène où ? À la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alors si tu as trouvé quelque chose, ne réfléchis plus et rentre dans cette vie que Dieu te propose. C'est le salut, c'est l'éternité pour ton âme. Verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous entendez cette parole ? On peut lui dire « Seigneur, Seigneur », mais Jésus le dit clairement, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Voilà pourquoi c'est si important de ne pas juste marcher comme ça dans la confusion, mais d'apprendre à faire la volonté de Dieu. Et quand tu fais la volonté de Dieu, tu sais que tu fais la volonté de Dieu. Tu le sais en toi que tu fais la volonté de Dieu. Et quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, j'espère que le Saint-Esprit va te montrer et que tu vas savoir que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Mais parfois on est mélangé. Et vous voyez, la Torah nous dit par exemple qu'on ne pouvait pas faire un habit avec deux matières différentes. Parce que Dieu, il est la duplicité, ce qui est double. Il ne veut pas qu'on ait un cœur double. Tantôt il dit la vérité, tantôt il dit le mensonge. Alors, soyez clair que si Jésus est venu dans votre vie c'est de faire sa volonté. Et quand vous êtes poussé à autre chose, eh bien, dites non et dites oui au Seigneur. Alors vous allez grandir et cette vie, elle va grandir, grandir, grandir en vous. Et vous allez voir que c'est là la vie, c'est là la vérité. Vous savez, il dit après, au verset 22, « Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Vous voyez, c'est des gens qui faisaient beaucoup de choses même pour Jésus. Et qu'est-ce que dit Jésus, verset 23 ? « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez le péché. » Alors je prie que l'on ne soit pas ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, même qui prient, qui ont envie de faire des choses, mais qui commettent encore le péché, l'iniquité dans leur cœur. Mais que Dieu vienne vraiment purifier nos cœurs au point qu'on veut vraiment faire rien d'autre que sa volonté, parce qu'on aime Dieu, et parce qu'on veut lui plaire, et parce qu'on ne veut pas vivre pour nous, mais on veut vivre pour les autres. Amen. On veut vivre pour les autres, et de tout cœur, et que Dieu mette ça dans tout notre cœur. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit, quiconque entend ces paroles, verset 24, on continue, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, et les met en pratique. Un jour Dieu, alors que je venais de venir au Seigneur, il m'a brisé, Luc 6, 46, je m'en souviendrai toute ma vie. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne mettez-vous pas en pratique les paroles que je vous dis ? Et là, ma vie chrétienne, elle s'est bâtie sur le roc. Si je l'appelle Seigneur, Seigneur, et que je ne mets pas en pratique sa parole, ça sert à quoi ? Pourquoi tu m'appelles Seigneur et tu ne mets pas en pratique les paroles que je t'ai dites ? Moi, j'ai eu la grâce, à peine avoir rencontré Dieu, que cette parole, elle m'a été donnée. Et j'ai compris que si je voulais l'appeler Seigneur, eh bien, je devais mettre sa parole en pratique et c'est là que j'aurai la vie. C'est là, regardez-moi, que j'aurai la vie, la joie. La plénitude, c'est là que je ne serai pas inutile à faire ma petite vie, mais que Dieu pourrait se saisir de ma vie pour œuvrer pour son nom, pour faire l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Alors ces paroles, Jésus nous dit, Ces paroles que je dis, celui qui les entend et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Vous voyez, on retrouve, c'est quelqu'un de prudent. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui réfléchit, pas qui vit des choses, puis qui continue de vivre comme ça, puis qui l'appelle même Seigneur, Seigneur. Mais quelqu'un de prudent, qui réfléchit, qui entend les paroles de Dieu et qui comprend qu'elles sont faites pour rien d'autre que d'être mises en pratique. Sinon, on ne prend pas Dieu au sérieux. Et on a besoin de prendre Dieu au sérieux pour avoir sa vie, pour avoir sa liberté, pour avoir la plénitude de la vie, de sa joie, de sa sécurité, de son assurance. Amen. Alors il dit, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alors j'aimerais vous dire, ce passage, il parle notamment du retour du Seigneur. Les jugements de Dieu qui vont s'abattre sur la terre. Mais si on a mis la parole de Dieu en pratique et qu'on est fondé sur le roc, on va tenir debout devant le Fils de l'homme qui viendra. Et vous connaissez la suite de ce passage. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique et qu'on fonde sur le sable, eh bien, qu'est-ce que nous dit la parole ? La pluie est tombée, les torrents sont venus, verset 27. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Là, il y a derrière cette parole la ruine de Babylone, vous voyez, qu'on voit dans l'Apocalypse et même dans les prophètes. Babylone, c'est le symbole de la ville, de ce monde que l'homme s'est construit. Et elle va être ruinée, cette Babylone. Elle va être jugée, elle va être ruinée. Avec tous ceux qui auront participé à sa débauche, tous ceux qui auront participé avec elle, qui auront bu avec elle de ses péchés, de sa voix, de tout ce que vous pouvez et que vous savez qui est mal. Eh bien, ils seront ruinés avec elle. Mais ceux qui seront au Seigneur seront sauvés. Maintenant, bien sûr qu'on peut prendre ce passage. Et c'est ce qui vous attend, les enfants. La pluie, elle va tomber sur vous. Les torrents même sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Vous comprenez ? Quand vous allez partir, brebis au milieu des loups, il y a des vents qui vont se jeter sur vous. Ne trouvez même pas étrange qu'après un camp comme ça, vous sentiez des attaques, des tentations. Parce que le diable, il n'est pas content de tout ce qui s'est passé cette semaine. Je peux vous en assurer. Il n'est pas content. Parce que si Dieu nous aime d'un amour éternel et qu'il veut nous sauver, le diable, la Bible nous dit que c'est un lion rugissant qui rôde cherchant qui dévorer. Vous m'entendez? Est-ce que vous vous imaginez dans la jungle avec un lion qui rugit, qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours et qui veut vous dévorer? Oh, vous monteriez tout de suite sur l'arbre. Si le Seigneur vous disait, monte sur l'arbre, ou bien même, je ne sais pas si les lions, ils montent à peine aux arbres, hein, mais si vous n'aviez pas d'arbre assez grand, et que le Seigneur disait, viens, viens dans ma main, et obéis-moi, vous sauteriez tout de suite dans sa main, n'est-ce pas? Alors pourquoi on ne le fait pas? C'est la question que je vous pose. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que le diable, il nous endort. Parce que le diable, il nous endort, il nous amène la confusion. Et le cri de mon cœur ce soir, c'est « Ne vous laissez pas endormir par le diable. Soyez prudents. Soyez dans la simplicité de l'Évangile. Obéissez à Dieu. Marchez dans sa volonté. » Parce que le diable, il veut vous dévorer. C'est la vérité. Le diable, il veut vous dévorer. Il veut vous prendre dans son royaume. Et son royaume, c'est les flammes. Son royaume, c'est la défaite. Son royaume, c'est la séparation d'avec Dieu. Et Dieu scrute nos cœurs. Et il nous dit que si on est sur le roc, si on marche selon sa volonté, si on lui obéit, eh bien les vents, ils vont souffler, le diable, il va venir essayer de tuer ce qu'il a mis en nous. Mais il dit, la Bible dit, cette maison, elle n'est point tombée. Amen. Elle n'est pas tombée. Et c'est tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour vous, que vous allez partir d'ici, mais que vous ne tombiez pas. Et il est possible que vous ne tombiez pas. Si vous croyez que ça n'est pas possible, c'est un mensonge. Oui, vous allez avoir des combats dans ce monde. Mais écoutez ce que Jésus dit, Jean 16, verset 33. Maintenant, c'est moi qui vous lis les versets. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » Vous ayez, si vous entendez ces choses et de dire « Oui, Seigneur, je veux décider de marcher avec toi. Même si je ne sais pas où ça va me mener, je veux mettre ta parole aux pratiques, je veux t'obéir, tu vas grandir en moi, c'est là ma vie. » Vous allez recevoir la paix de Dieu, je peux vous assurer. Vous allez avoir la paix en Jésus. Et alors, il dira... vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'est pas faux, Jésus, il est la vérité. Vous aurez des tribulations, vous aurez des combats, ça va être difficile. Je vous mentirai en vous disant, ça va être trop beau, ça va être génial. Oui, si tu as la plénitude de Jésus, tu as la joie, tu as la vie. Mais Paul dit à Timothée, nul ne peut servir le Seigneur sans souffrir, sans avoir des tribulations. On est appelé à être des soldats de Christ, bien-aimés. Et on ne peut pas servir Dieu sans être persécuté. Parce que ce monde, on va le voir, il gît sous la puissance du malin, sous la puissance du diable. Et tout ce qui nous entoure, ça nous pousse au diable, à dormir, à nous endormir. Alors Jésus dit, vous aurez des tribulations. Ça va être difficile, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais prenez courage, et c'est ce qu'il veut vous dire ce soir, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus, il a vaincu ce monde. Et en Jésus, vous avez toute la puissance, bien-aimé. Jésus, il est Dieu, et Jésus, il est dans votre cœur. Et en lui, vous avez la puissance de vaincre toute chose. Et si vous vous dites le contraire, c'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est de l'incrédulité. Par la foi, tout est possible en Jésus-Christ. Alors, maintenant un autre verset, 1 Jean 2, verset 14. 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, jeunes gens. Écoutez, c'est comme si c'est le Seigneur qui vous parlait ce soir. Écoutez-moi. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous l'avez vaincu dans vos cœurs. Alors il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et ça, vous voyez, je le soulignais avec des larmes. J'aimerais vous dire, regardez-moi, s'il vous plaît. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Et toutes ces choses qui sont dans le monde. Parce qu'elles vont vous perdre. Elles vont vous perdre. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, hein, on convoite des choses, on est tenté par la chair. La convoitise des yeux, hein, on regarde, on veut voir ceci, on veut voir cela. Puis ça tourne en nous. L'orgueil de la vie, on veut être quelqu'un. L'orgueil de passer pour quelqu'un, eh bien tout cela ne vient point du Père. Nous dit la Bible. Ça vient pas de Dieu, ça. Quand on regarde des choses, quand on veut des choses, quand on veut être quelqu'un, ça vient pas du Père. Ça vient du monde. Ça vient pas du Père. Ça vient du monde. Et vous savez ce que dit l'apôtre Jean? Il dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et toutes ces choses, ces tentations qui vous pousseraient à pécher, ça vient pas du Père. Recevez-le dans vos cœurs ce soir. Ça ne vient pas du Père, ça vient du monde. Et Jésus a dit, tout plant qui ne sera pas planté par mon Père céleste sera déraciné. Tout ce qui n'est pas planté par le Père, par la vérité de Jésus-Christ, ce sera déraciné. Ça va tomber. Alors tu vas faire des choses pour la vanité. Ça veut dire pour rien. Des choses au combien tu t'en mordras les doigts. Tu crieras. Je n'espère pas qu'aucun de nous puisse crier comme ce mauvais riche à Lazare. Trempe au moins le bout de ton doigt. Et il dit, qu'est-ce qu'il disait quand je vous ai... J'ai parlé à mon groupe lors du premier jour. Ce riche est Lazare, le pauvre, qui lui, il a souffert pendant sa vie. Ça a été dur pour lui. Mais il a vaincu le monde. Alors il était dans le royaume des cieux, dans le sein d'Abraham. Et il y avait un riche qui avait profité de la vie, qui avait fait ceci, l'orgueil de la vie, toutes ces choses. Et bien lui, il était dans l'enfer. Il était dans les flammes éternelles. Et c'est la Bible qui nous dit cela dans l'évangile de Luc. Le riche, il criait. C'est la parole de Dieu qui doit saisir nos cœurs. Il criait ce riche qui avait profité de la vie, qui n'avait pas eu la crainte de Dieu pour obéir au Seigneur. Il criait à Lazare, viens au moins tremper le bout de ton doigt dans l'eau. Pour me rafraîchir. Et c'est Abraham, le père de la foi, qui a dit, c'est pas possible. Il peut pas venir vers toi, et toi tu peux pas venir vers lui. C'est fini maintenant, c'est trop tard. Et il y a un grand abîme. Il y a un grand abîme entre vous et eux. Ainsi, vous ne pouvez pas passer, ce n'est pas possible. Alors, vous savez ce qu'il a dit, le riche ? Il a dit, alors s'il te plaît, permets au moins quelqu'un de descendre pour dire à toute ma famille, pour dire à mes frères, que le royaume de Dieu, comme je vous le disais dans le psaume 73, c'est vraiment une réalité. Il y a un moment où on va tous comparaître devant Dieu, et il y en a qui iront dans le royaume de Dieu, il y en a qui iront dans les flammes, qui seront séparés de Dieu. C'est une réalité, et le diable veut nous endormir pour pas qu'on en prenne conscience. Alors il disait, je t'en supplie, va au moins leur dire. Vous savez ce qu'il lui a dit Abraham ? Même si quelqu'un qui ressuscitait d'entre les morts, il venait leur dire, ils ne voudraient pas entendre. Ils ont la Torah, ils ont les prophètes, ils ont la parole de Dieu, mais ils ne veulent pas l'entendre. Est-ce que tu vas l'entendre ? Est-ce que tu vas mettre la parole en pratique ? Est-ce que tu vas être prudent ? Est-ce que tu vas être prudent ? Parce qu'un jour, malheureusement, ce sera trop tard. Aimer les choses de ce monde, ça ne vient pas du Père. Et notre Père, il est la vie. Et le monde passe. La Bible nous dit, le monde passe. Et sa convoitise, toutes ces convoitises qu'on peut avoir. Ah, on a des convoitises, on y répond, puis ensuite on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ça, ça passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Nous savons que nous sommes de Dieu, 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Le Fils de Dieu, il est venu dans vos cœurs et il vous a donné l'intelligence. Peu importe votre âge, je vois notre petit frère Ilan, tu entends les paroles que je dis, tu les ressens dans ton cœur. Tu vois, il pleure, non pas parce qu'il est triste, mais parce qu'il sent que c'est la vérité, c'est bien ça ? Tu sens que c'est la vérité, et tu sens que tu veux le vivre ces choses, et tu sens que si tu ne les vis pas, tu vas retomber, et que tu veux les vivre. Alors Ilan, il a 8 ans, bientôt 9, mais il a 8 ans, mais Dieu lui parle ce soir. Ses larmes, elles coulent parce que Dieu lui parle et il peut l'entendre. Il a l'intelligence qui lui est donnée. Et vous voyez, on doit revenir comme ces petits-enfants, nous dit Jésus. Parce que si on est trop stupide, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous, nous dit la Bible. Quand on est plus grand, des fois, on croit qu'on a compris, on croit qu'on peut faire ceci, mais on est des fous. Et si on pouvait avoir ce cœur d'Ilan ce soir, d'ouvrir nos cœurs et d'entendre, et de prendre ces choses au sérieux, parce que c'est l'amour de Dieu, bien-aimé. C'est l'amour de Dieu qui nous parle, qui a donné son Fils unique, et nous a donné sa vie. Qu'est-ce qu'on va faire de sa vie dans nos cœurs ? Est-ce qu'on va la chérir comme Dieu nous chérit ? Est-ce qu'on va mettre sa parole en pratique ? Quoi qu'il arrive, même si les vents se jettent sur nous, les torrents viennent sur nous, non ! Comme dit la Bible, je ne mourrai pas, je vivrai ! Si on pouvait avoir tout ça dans nos cœurs, non ! Je ne mourrai pas avec ce monde, je vivrai ! Et publierai les œuvres du Seigneur ! Non ! Je ne me laisserai pas avoir. Non, je ne me laisserai pas tuer. Mais je vivrai. Je prierai. Je mangerai cette parole de Dieu. Elle deviendra ma vie. J'obéirai à Dieu. Je mettrai sa parole en pratique. Et je grandirai dans le Seigneur. Je grandirai dans la communion avec Dieu. Et je vivrai. On est fait pour la vie. On est fait pour la vie. Et pour rien d'autre. Et pour rien d'autre. Et faire la volonté de Dieu, c'est le sens de notre vie. De ne pas faire ma volonté, mais la volonté de Dieu, c'est le sens de notre vie. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. Vous savez quoi ? Ne pas pécher, c'est pas « je fais pas ceci, je fais pas cela ». Ne pas pécher, ça veut dire être en Jésus-Christ. Si je suis en Jésus-Christ, si j'ai la vie de Jésus, je ne pécherai pas. Ainsi la parole de Dieu dit, 1 Jean 5, verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Si quelqu'un est né de Dieu, on le sait, il ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Si tu es né de Dieu, tu te gardes toi-même, tu es intelligent, tu as de la prudence, tu as aussi la simplicité pour vivre la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et le malin ne te touchera pas. Comme le dit l'apôtre, que personne ne vous séduise. celui qui se laisse aller à pécher, la Bible le dit, c'est un enfant du diable. Et celui qui marche à la suite de Jésus, c'est un enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Dieu veut vous garder comme ses enfants. Oh, combien avant cette prédication, je sentais son amour. Même si vous êtes fatigué, quoi qu'il arrive, quand vous rentrerez chez vous, vous vivrez des moments difficiles. Dieu, il veut vous prendre sur ses épaules. Bien sûr, si vous ne priez pas, si vous ne passez pas de temps avec lui, vous aurez moins de révélations de son amour. C'est normal. Si on passe du temps ensemble, on va se connaître, on va apprendre à s'aimer, n'est-ce pas ? Parfois, on peut passer, je ne sais pas combien de temps, devant des films, devant la télé, à faire des jeux, à faire des... Mais avec Dieu ? Avec Dieu ? Un quart d'heure, des fois, ça paraît même long. Mais apprenez à aimer Dieu. Apprenez à le connaître. Apprenez à fermer votre porte sur vous et à le prier dans le secret. Apprenez à invoquer son Saint-Esprit. Apprenez à lire par vous-même sa parole. Apprenez à vous approcher de lui et il s'approchera de vous. Et il vous gardera. L'apôtre Jean, vous savez ce qu'il finit par dire dans ce que je vous ai lu ? Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Et si vous pouviez recevoir cette parole, gardez-vous des idoles. Vous savez ce que c'est une idole ? Dans l'étymologie du mot, ça veut dire c'est quelque chose qui nous cache Dieu. C'est quelque chose qui nous cache Dieu. Gardez-vous des choses qui vous cachent Dieu. Les idoles, ça peut être bien des choses dans vos vies qui prennent le pas sur Dieu. Gardez-vous des idoles. Et la plus grande idole, vous savez ce que c'est ? C'est vous-même. Notre plus grande idole, c'est nous-mêmes. C'est nous, c'est notre vie. C'est qu'on se croit des fois meilleur que Dieu. Mais on a besoin, comme Job, de dire maintenant, je lâche tout, Seigneur. Je me repens, je reviens à toi. Tu es Dieu, j'avais entendu parler de toi maintenant. Mon œil t'a vu, je lâche tout et prends ma vie. Prends ma vie. Matthieu 16, verset 24, c'est moi qui vous lis. Et on peut déjà se mettre en prière. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Si tu veux venir vraiment à Jésus, tu dois renoncer à toi-même. Demander pardon, se repentir, c'est renoncer à soi-même pour revenir à Dieu et laisser Dieu nous donner sa vie. Verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » J'étais dans la voiture en venant ici et ces versets étaient dans mon cœur. Si seulement vous pouviez les comprendre, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Mais celui qui la perdra à cause de moi, si tu perds ta vie à cause de Jésus, tu la trouveras. Tu vas trouver ta vie, tu vas trouver la plénitude de la vie. Et que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Je répète, qu'est-ce qu'il te servirait de gagner le monde entier si tu perdais ton âme ? Enfin, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et ce que j'aimerais terminer par vous dire avant le dernier appel, c'est que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Il doit venir. Et il va venir dans sa gloire avec ses anges. Alors est-ce que tu veux garder ta vie pour la perdre ? Ou est-ce que tu ressens dans ton cœur que ta vie t'est appelée à la donner pour recevoir la vie de Jésus? Pourquoi? Parce que ta vie, elle n'est pas faite pour ce monde ici-bas. Ta vie, elle est faite pour le royaume des cieux. Apocalypse chapitre 4 nous dit que dans le ciel, il y a un trône et que quelqu'un est assis sur son trône. Vous avez entendu ce témoignage d'Odélia qui disait qu'il y avait un soleil et il y avait comme une forme. C'était le Seigneur. C'était le Seigneur qui régnait dans sa gloire. Et elle a vu qu'elle est montée. Elle est montée. Elle ne voyait pas les autres, mais elle sentait qu'il y en avait qui montaient avec elle. Tu es fait pour monter vers Dieu. Tu es fait pour le royaume de Dieu. Tu n'es pas fait pour cette terre. C'est la vérité que sur cette terre, tu vas souffrir. Tu vas tout le temps vivre des choses difficiles. On sera tout le temps fatigué. On va se faire mal. Les gens vont nous faire mal. On vit dans un monde de péché. Et la puissance du diable, elle est sur ce monde. Mais on n'est pas fait pour ce monde, les enfants. Si vous pouviez garder ça dans votre cœur, vous n'êtes pas fait pour ce monde. Vous n'êtes pas fait pour cette terre. Vous êtes fait pour Dieu. Vous êtes fait pour le royaume de Dieu. Vous êtes fait pour la gloire de Dieu. Vous êtes fait pour la vie du monde à venir. Vous n'êtes pas fait pour cette vie-là. Vous êtes fait pour la vie du royaume des cieux. Jésus est venu pour vous donner la vie. La vie ici-bas, mais cette vie que vous recevez ici-bas, c'est le gage, c'est le sceau, comme je disais tout à l'heure, on l'a expliqué. C'est ce qui nous scelle pour la vie éternelle. On est fait pour la vie éternelle. On est fait pour l'infini. C'est comme si tu comptais jusqu'à 10, et tu crois que ta vie, c'est de compter jusqu'à 10. Mais Dieu te dit, ta vie, c'est de compter jusqu'à l'infini. Alors si tu lâches le fait de savoir compter jusqu'à 10, et que tu mets ta confiance en Dieu, qui lui seul sait compter jusqu'à l'infini, alors tu vas rentrer dans l'infini. Alors ne soyons pas fous, bien-aimés, chéris enfants de Dieu, pour garder notre vie, pour nous laisser aller au péché, pour nous faire dévorer par les loups. Soyons prudents, soyons intelligents, soyons simples, soyons vrais, mettons sa parole en pratique, prions, lisons la Bible, pour fonder nos cœurs, obéissons à Dieu, pour marcher de plus en plus comme des hommes et des femmes fortes. Parce qu'il va vous donner d'être des hommes et des femmes fortes. Alors vous allez tout de suite voir venir le diable. Vous allez tout de suite voir venir vos mauvaises fréquentations. Vous allez tout de suite voir venir vos cœurs durs. Et Jésus régnera dans vos vies. Et vous allez voir venir le Seigneur régner de plus en plus dans vos vies. Enfants bien-aimés de Dieu, que ce soit comme un fondement dans vos cœurs. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors qu'est-ce qu'il te servirait de gagner le monde entier? Dépose ta vie au Seigneur et laisse-le grandir en toi. Laisse-le faire de toi avec cette petite foi que tu as dans ton cœur. Avec ce que tu ressens dans ton cœur, le Seigneur peut faire grandir, grandir. Et tu peux devenir un arbre. Et les oiseaux du ciel vont pouvoir venir se poser sur toi. Où est-ce que tu veux rester cette graine? Tu veux rester cette graine en voulant dire, ben, je veux profiter de la vie? Non. Entends la parole de Dieu et accepte de tomber en terre. Et même si tu ne vois plus rien pendant un temps, tu dois te renier toi-même. Si tu perds ta vie, tu vas la trouver en Jésus. Et tu vas commencer à pousser pour la vie éternelle. Tu vas devenir un légume qui va grandir, qui va devenir un petit arbre, un grand arbre. Et un jour, tu seras ce cèdre du Liban, planté dans la maison du Seigneur, éternellement. Descendons au fond de nos cœurs, tombons en terre, et laissons Jésus venir nous relever. Laissons Jésus venir régner dans nos cœurs, parce qu'on est fait pour ce règne. Et alors que nous chantons, nous écoutons cette mélodie du chant de Jésus, vous inviter maintenant à vous avancer vers le Seigneur et j'aimerais vous lire un dernier texte pour préparer nos cœurs. Vous savez, dès le premier jour avec mon groupe, j'avais exprès rien préparé pour qu'on puisse être à l'écoute de ce que Dieu voulait nous dire. Et le Seigneur, je crois, par son esprit, nous a interpellés. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Alors j'aimerais vous lire ce passage. Vous pouvez fermer vos yeux. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Alors le prophète a dit, « Malheur à moi, Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis alors la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Vous pourrez méditer ce texte. Alors que vous priez, j'aimerais vous dire que ma prière, c'est que comme le prophète Ésaïe, on puisse être saisi de la vision du Tout-Puissant. On puisse être saisi de la vision du Tout-Puissant. Qu'on puisse, par la foi, voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui règne sur son trône. Oui, les enfants, Dieu règne. Dieu règne sur son trône. Dieu est bien vivant et il règne en majesté. Et si vous pouvez être saisis de cette vision d'un Dieu qui règne en majesté, alors comme le prophète Ésaïe, vous allez être saisis du péché de ce monde. Vous allez dire, malheur à moi, parce que je suis un homme impur et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Celui qui est saisi de la vision de Dieu, de la gloire de Dieu, celui qui prend conscience que la vision d'Odélia, c'est une véritable vision du Seigneur, qu'un jour on va devoir tous monter vers le Seigneur, dans la pureté, dans la bonté, dans la gloire, eh bien il va se rendre compte que ce monde, c'est un monde, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est un monde pourri, c'est un monde de péché. C'est un monde diabolique, c'est un monde qui veut vous tenter, c'est un diable qui veut prendre votre âme. Vous allez vous rendre compte, et vous allez même avoir une haine contre le péché, contre votre chair qui vous tire vers le bas, qui veut vous faire désobéir, qui veut vous faire mentir, qui veut vous faire tomber dans l'impureté. Vous allez avoir une sainte haine, que Dieu nous saisisse de sa vision, de son règne qui vient, pour qu'on puisse alors être saisi de ce monde. Vous savez, Hébreux 11 nous dit que tous ces témoins de la foi, le monde n'en était pas digne. J'aimerais vous dire à vous ce soir, bien-aimés, le monde n'est pas digne de votre vie. Le monde n'est pas digne de vos vies. Ne vous laissez pas manger par ce monde. Ne vous laissez pas voir comme tous les autres qui passent par ce chemin large, cette porte spacieuse. Le monde n'est pas digne de vous, mais vous êtes digne de la gloire de Dieu. Ce mauvais monde n'est pas digne de vous prendre avec lui, parce que vous avez des cœurs purs, parce que vous entendez la parole de Dieu, parce qu'elle a fait son œuvre dans vos cœurs. Alors face à ce monde, vous pouvez dire comme le prophète Ésaïe, « Malheur à moi !» C'est exactement les mêmes paroles que le frère Julien nous a prêchées ce matin, dans Romains chapitre 7. « Malheur à moi ! Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ? De ce corps qui est tenté par ce monde ? De ce corps qui n'arrive pas à vivre en plénitude pour Dieu ? Qui ne prend pas conscience de la gloire de Dieu ? Qui me délivrera de cette folie ? De cette stupidité qui me voue à la mort. Alors dites-lui, malheur à moi. Et la réponse, c'est grâce soit à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors avec simplicité, comme je vous l'ai dit, en ce soir et tous les jours de votre vie, venez devant Dieu, confessez le nom de Jésus. Dites Jésus, 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 rien qu'en proclamant, pendant une minute avec foi, dans la puissance du Saint-Esprit, le nom de Jésus, vous serez délivrés de toute tentation. Mais sois prudent. Si tu vas trop vite, tu tomberas avant d'avoir invoqué le nom de Jésus. Ne sois pas stupide, mais sois prudent et sois simple. Invoque le nom de Jésus. Laissez la puissance de Dieu prendre le pas sur votre vie. Maintenant, et quand vous serez rentrés, et même si vous êtes des agneaux au milieu des loups, la puissance de Jésus, le bon berger, il gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Il fera tomber toutes vos idoles. Vous aurez des tribulations, mais vous ferez l'expérience que Jésus a vaincu le monde. Et vous vaincrez le monde avec Jésus-Christ. Ce monde qui n'est pas digne de vos vies, que le Seigneur veut pur, parce que vous êtes pur, parce que vous avez entendu sa parole. Enfin, bien-aimés, dernière chose que j'ai à vous dire ce soir, et peut-être pour ce camp, si vous pouvez être saisis de la vision de Dieu, que Dieu est vivant et qu'il règne, et que vous et le monde est fait pour Dieu, et bien sûr n'est pas fait pour la mort. Si vous saisissez que ce monde, il est dans le péché, et un péché subtil et terrible, et si vous saisissez que Jésus seul peut vous sortir de là, alors le Seigneur vous posera comme à Ésaïe cette question. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Voyez, le prophète Ésaïe, il a dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux entendre la voix du Seigneur? Vous savez, un jour, Jésus, voyant la foule, la Bible nous dit qu'il a été ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus, un jour, il a regardé la foule. Est-ce que vos cœurs et vos yeux peuvent s'ouvrir sur ce monde, sur la foule des gens qui vous entourent, sur tous vos camarades de classe? Est-ce que vous allez pouvoir être ému comme Jésus? Avoir de la compassion, parce qu'elles sont languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors vous voyez, bien-aimés, Jésus à ce moment-là, il a dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Écoutez-moi bien, parce que je sais que ce soir, il y en a qui vont entendre cette parole comme une parole de Dieu. « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » La moisson est grande. Il y a une foule qui part en enfer. Il y a une foule qui part en enfer. Et il y a peu d'ouvriers. Est-ce que ce soir, il y en a d'entre vous qui vont entendre comme Ésaïe la voix du Seigneur, qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Est-ce qu'il y en a comme Ésaïe qui vont dire, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Est-ce que la parole de Dieu, elle retentit dans certains cœurs ce soir? Jésus, il a dit à ses disciples, quand il lui a dit, il y a peu d'ouvriers, Jésus, il a dit, priez donc le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Jésus a dit, priez donc d'envoyer les ouvriers. Alors ce soir, j'aimerais te poser la question que Dieu a un jour posée à ma vie. Est-ce que tu peux prier tranquillement pour que Dieu envoie des ouvriers, ou est-ce que tu sens qu'il faut que tu te lèves? Moi, un jour, j'ai lu cette parole et je voyais que je ne pouvais pas prier pour des ouvriers, parce que Dieu me priait d'être un ouvrier. C'est Dieu qui me priait de me lever. Alors je me suis levé comme Ésaïe et j'ai dit, me voici, envoie-moi. Il y en a qui sont appelés parmi vous. C'est une conviction que Dieu a mise dans mon cœur. Le premier jour que l'on a parlé, quel est le sens de ta vie? Dieu veut lever une armée. Dieu veut lever des serviteurs de Dieu, des missionnaires qui lâchent tout pour suivre et vivre Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas appelés. Tout le monde ne sont pas appelés. Mais même si tu n'es pas appelé, eh bien, ce soir le Seigneur, alors que tu vas t'avancer, veut t'inviter à être scellé pour vivre une vie digne de son appel. Si tu n'es pas appelé, que ta vie puisse servir pour soutenir ceux qui sont appelés. Que ta vie puisse servir ceux que Dieu veut envoyer à la moisson. Peut-être que tu peux prier dans ton cœur. Oh Seigneur, moi je sens que j'ai pas d'appel. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Dieu ne force pas. Et Dieu n'appelle pas tout le monde. Si tu sens que dans ton cœur tu es appelé, que tu n'es pas appelé à dire comme Esaïe, « Me voici, envoie-moi. Je suis appelé à te servir. » Eh bien, prends conscience que tu es appelé à prier. Et que les choix que tu vas faire dans ta vie, fais-les pour le royaume de Dieu. Fais-les pour soutenir les ouvriers. Que ce soir, en ce dernier soir, en cette dernière veillée, on puisse profondément réfléchir au sens de notre vie. À quoi va servir notre vie? Soit elle va servir pour prier et soutenir les ouvriers, soit ce soir, tu entends la voix du Seigneur, comme Esaïe, tu entends la voix du Seigneur, et tu sens que tu ne peux pas simplement prier en t'oubliant toi-même, mais que le Seigneur pointe le doigt sur ton cœur dans son amour, et qu'il te dit, je t'appelle à me servir. Et même si tu es encore trop jeune pour servir le Seigneur, eh bien le Seigneur ce soir, il veut mettre le doigt sur le fait que tu es appelé, et il veut toucher ton cœur, pour que toutes ces prochaines années de ta vie, elles puissent te préparer à le servir. Elle puisse te préparer à tout donner pour lui. Elle puisse te préparer à être un ouvrier, à être comme ce prophète Esaïe, pour servir ce Dieu de gloire. Père céleste, nous plaçons devant toi en ce soir. Saisis-nous de cette vision de ta gloire pour laquelle nous sommes faites. Saisis-nous de ce monde de péché pour lequel nous ne sommes pas faits. Saisis-nous de Jésus-Christ qui seul peut nous sauver. Et alors saisis-nous de cette parole de Dieu. Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?